Être une famille queer en 2024, c'est peut-être pas devenu une routine parce que j'aime rien de routinier d'avoir une famille ou d'être une famille, mais c'est quand même beaucoup plus facile que ça l'était. On a fait des progrès, mais ce n'est pas toujours parfait. Il y a encore des irritants. Et pour en parler, je vais parler avec Eugénie Lépine-Blondeau, qui est chroniqueuse culturelle à Radio-Canada. Elle et sa conjointe, donc, ont eu un petit enfant, un petit garçon, au début du mois de mai. Et ils ont connu certains petits problèmes. On va en parler. Alors, allô, Eugénie?
Bonjour Denis Martin, ça va bien?
Ça va bien. Alors, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Et puis, comme
Merci.
c'est la première fois qu'on t'interviewe, on demande toujours à nos invités quels pronoms et quels accords il ou elle, oui, elle veut l'utiliser.
Oui, alors c'est l'accord, c'est avec elle, donc elle, la, etc. Donc
Féminin, pas de
voilà,
problème.
féminin.
Oui. Et on te reçoit en fait à l'occasion de la Journée mondiale des parents, en passant. Et d'abord, comment ça va, toi, après la grossesse et la naissance? Je pense que c'est la première chose à poser à une femme qui a donné naissance à un enfant, n'est-ce pas?
Ben, on m'avait bien dit que ça changeait une vie, puis c'est bien vrai, c'est bien vrai. Avoir un enfant, ça change une vie. Ça fait quelques semaines maintenant, puis c'est drôle parce que effectivement, je suis chroniqueuse culturelle depuis 5 ans à l'émission Tout un matin à Radio-Canada, puis j'ai l'habitude de me coucher très très tard, d'aller voir des spectacles qui commencent à 20 h. Aujourd'hui, je me couche quasiment à 20 h, c'est-à-dire si mon enfant dort, fait un premier stretch vers cette heure-là, je vais me coucher rapidement. Donc, ma vie a totalement changé. Par contre, ça m'a quand même un petit peu habituée, cette vie-là, de chroniqueuse culturelle, à avoir un sommeil rompu, interrompu, on peut dire ça. Donc, c'est ça. Mais c'est formidable. Ma conjointe et moi, forcément, hein, c'est un projet qu'on caressait depuis vraiment longtemps. Donc, dans les moments plus difficiles, on se rappelle que personne ne nous l'a imposé, cette vie-là, puis on l'a vraiment voulu. On a un petit garçon formidable. Donc,
Ben
pour ça, c'est
justement,
chouette.
comment va-t-il le petit Miro? Comment est-ce qu'il va?
Oui, il va très bien. C'est un petit garçon très vigoureux. Il y en a dedans. On sent déjà sa petite personnalité. Mais c'est un bébé de quelques semaines. C'est-à-dire qu'il dort. Il dort pas au moment où on veut. Il boit beaucoup. Puis il pleure beaucoup. Mais on aperçoit déjà des sourires. Puis il tient notre regard. Donc ça, c'est vraiment très touchant.
C'est quand même formidable qu'en 2024, deux parents queer puissent donner naissance à un enfant, parce que c'était pas si simple que ça, il n'y a pas si longtemps que
Ouais.
ça. Alors, comment ça s'est passé pour toi et ta conjointe?
Ben en fait tu veux dire
Ben,
l'accouchement ou bien
non, tout le
toute la
processus.
confection
Oui,
de l'enfant?
commençons là parce que c'est pas juste l'accouchement. Bien que l'accouchement, je suis
Ben
certain que c'est quelque chose de très compliqué, puis j'expérimenterai jamais ça, mais quand même, ouais.
Non, ben en fait, ma conjointe et moi, ça faisait plusieurs années qu'on souhaitait bâtir notre famille. Donc, ça a pris quelques années justement là, en clinique de fertilité pour arriver à la conception de notre petit garçon Miro. Donc, ça a pris, c'est ça, beaucoup de patience, beaucoup beaucoup de temps, énormément de temps. Et ça, je pense que les familles qui sont en processus là, dans une clinique de fertilité doivent le savoir, beaucoup de résilience, beaucoup de paperasse, de l'argent aussi, forcément. Donc, ça a été un processus à la fois difficile parce qu'il y a eu des échecs, forcément. Puis ça, ben, ça peut être extrêmement triste et peinant, là. Mais il faut persévérer si c'est notre envie. Nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà. Et puis là, ben, on est heureuse.
Avez-vous eu beaucoup, toi et ta conjointe, de l'appui, du soutien du système en général, les cliniques, les hôpitaux, les médecins? Comment ça se passe que...
Ouais, nous, à la clinique de fertilité où on était, ça a été on est très contente, en fait, là, du service qu'on a eu. C'était une clinique, là, au privé. Je souhaite pas nécessairement la nommer pour pas nécessairement faire de la pub, là, comme ça, mais c'est une clinique au privé où on a été très bien reçus, où on a eu un bon suivi, un bon appui, où on a été accueillis aussi. Il y a jamais eu de problème, là, concernant le fait qu'on était une famille homoparentale ou une future famille homoparentale. Donc, nous, on s'est sentis super accueillis. Puis évidemment, ben, nos amis, nos familles aussi nous ont énormément soutenus.
Bon, donc la naissance de votre enfant, à toi et Judith, ça a été, je pense qu'on peut le dire, un des plus beaux jours de votre vie.
Mais ça a été un jour extraordinaire, c'est sûr, parce que surtout après une grossesse de 40 semaines où tu t'imagines c'est qui ce petit être-là qui bouge dans ton ventre, qui donne des coups parfois, qui développe déjà sa personnalité dans son ventre, dans mon ventre, tu sais, fait que je me dis, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de le rencontrer. C'était surtout ça. Donc, c'était la journée la plus difficile probablement de ma vie, mais la plus marquante, très certainement aussi.
Mais il y a un mais, vous avez quand même, toi et Judith, été attristés de constater qu'il y avait un irritant quand même assez important
Ouais.
sur le petit carton là, quand on identifie les nouveau-nés. Peux-tu nous raconter ça?
Oui, ben en fait, déjà, dans tout notre parcours, on est allé, par exemple, à un autre hôpital pour enfants pendant ma grossesse, parce qu'on avait des tests à faire. Puis déjà là, j'avais identifié, puis Judith aussi, ma conjointe, on avait identifié des patterns très hétéronormatifs, surtout dans ce qui est de tout ce qui est administratif. Donc, par exemple, c'est ça, dans les papiers, c'était écrit mère Eugénie, puis père Judith. Puis les gens qui remplissent ça, le font, j'imagine. J'imagine un peu mécaniquement, là, je ne pense pas qu'il y ait une intention mesquine nécessairement derrière ça, mais il n'en demeure pas moins que ça veut dire que les papiers sont faits pour des familles où il y a une mère et un père, ce qui veut dire que ça exclut forcément nous, les familles, donc homoparentales comme nous, mais aussi les mamans solo, les nouvelles familles avec avec mère porteuse, par exemple, etc. Donc, ça exclut quand même plusieurs modèles familiaux, des modèles triparentaux aussi, etc. Donc, ça nous avait heurté, mais c'est vraiment quand on est arrivé en postpartum après l'accouchement, où on a vu que sur la petite étiquette, le papier d'identification du bébé, c'était vraiment écrit mère Eugénie, père Judith. Puis ça nous a fait de la peine d'un, parce qu'effectivement, c'était un jour formidable pour nous. C'est le premier jour dans notre vie de parents. Puis déjà, on a ce sentiment d'être pas dans la norme, d'être anormal, etc. T'sais. Donc ça nous a heurté. Ça a heurté forcément Judith aussi, parce que c'est elle qui était identifiée comme père, alors qu'elle n'est pas du tout le père là, de cet enfant-là. Et puis ça renvoie aussi un peu l'idée que le fait que finalement il n'y ait pas de père, donc qu'il lui manquerait un père, alors que c'est pas vrai. Dans notre modèle parental, il y aura juste Il n'y a pas de père, il y a deux mères qui l'aiment énormément, cet enfant-là. Puis c'est le modèle qu'on veut donner. Donc, c'est une petite. Ça nous a fait de la peine. Et on a remarqué aussi dans le carnet de vaccination qu'on a tous et toutes et tous. Et le carnet de vaccination, c'est la même chose. C'est écrit père, mère. Et c'est. On pourrait changer ça pour
Parents.
viser justement une société beaucoup plus équitable et inclusive, finalement.
Ça pourrait être juste être parents, finalement, parents 1, parents 2.
Absolument.
Puis ça pourrait être aussi parents 2, parents 3, parents 4, parce qu'il y a des familles avec plusieurs parents. Puis
Ouais.
ça aussi, il faut s'habituer à ça, n'est-ce pas?
Ouais. Puis ça pourrait aussi, tu sais, il y a des gens qui veulent s'identifier comme mère, comme père, tu sais, puis c'est
C'est leur
correct
choix.
aussi, mais ça pourrait aussi être juste on laisse un blanc puis on l'écrit à la main selon comment est-ce que la personne s'identifie. Donc il y a différentes possibilités. Puis moi j'ai fait une petite publication en fait là, à la journée contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai, dans laquelle sur Instagram en fait où je disais ben que cette journée-là un peu elle résonnait spécialement cette année, tu sais, parce que on se projetait comme parents queer de famille homoparentale, puis je disais qu'il y avait des petites et grandes avancées à faire partout dans le monde, puis je donnais comme exemple cet exemple-là de ce qu'on a vécu donc en postpartum, et puis c'était à l'hôpital jeune homme, parce que bon après ça a été dans le journal, mais ça a été au CHUM, puis c'est venu aux oreilles pardon d'une gestionnaire du CHUM qui m'a appelé, qui nous a appelé comme famille, puis qui a voulu discuter de ça, puis qui tout de suite a dit ben on va changer les choses, donc le carton d'identification doit être changé là, prochainement en fait, et ça a été vraiment touchant de voir ça, parce que ça s'est fait dans le respect puis dans l'écoute.
Est-ce que tu t'attendais à une telle réaction à la suite de cette publication qui était toute simple? Moi, je te suis
Ouais.
sur les réseaux sociaux, c'était tout simple. J'ai
Ouais.
réagi, j'ai dit, il faut que je l'interviewe. Puis là, j'ai vu que je n'étais pas tout seul qui a eu la même idée.
Ben en fait, je m'attendais pas à une réaction à tant de réactions de la part de mes pairs, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je veux dire, des fois, je sais un peu qui me suit, avec qui j'interagis. J'ai une communauté, tu sais, je fais partie d'une communauté queer, donc je suis ces gens-là sur les réseaux sociaux, ils me suivent aussi. Donc, je m'attendais à peut-être des gens qui me disent, ah ben oui, c'est vrai, mais j'ai eu tellement de témoignages et ça, j'en suis vraiment pas revenue, là. Les gens qui vivaient, qui avaient vécu la même chose, autant il y a un an qu'il y a 20 ans, par exemple. Donc, ça m'encourageait quand même à me dire, ben, d'un, on n'est pas tout seul, puis de deux, ça a vraiment alimenté la conversation. Mais je m'attendais absolument pas à une réponse du CHUM. Puis la raison, le but, c'était pas non plus, je les ai pas identifiés dans ma publication non plus. Tu sais, mon but, c'était pas de lancer une flèche au CHUM parce que, outre ça, on a eu un accompagnement extraordinaire et vraiment bienveillant de la part du personnel pendant l'accouchement et tout ça. Donc, je voulais pas nécessairement ne jeter la pierre sur personne. Et puis la raison pour laquelle j'en ai pas parler directement au CHUM, c'est que j'avais, dans notre processus de fertilité, dans une autre clinique pour laquelle on n'a pas opté finalement, j'en avais parlé de ces papiers-là administratifs très hétéronormatifs, puis il m'avait dit, ben écoutez, madame, c'est des trucs qu'on imprime en 1000 copies ou en 10 000 copies il y a 10 ans, puis on va pas les changer. Puis je me suis dit, ben ça doit être la même chose au CHUM, donc je me suis même pas essayée. Donc j'étais vraiment agréablement surprise de voir que finalement, ben, c'est le CHUM qui a été proactif finalement. Puis ça, c'est encourageant.
Écoute, il reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Là, on peut, parce que tu es en congé, mais on peut quand même t'entendre à nouveau. Tu es sur audio, une balado sur
Ouais.
la maladie de Parkinson. C'est intéressant, ça.
Ouais. Ben, en fait, c'est que mon père a été diagnostiqué avec cette maladie-là il y a quelques années. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est une maladie que moi, je connaissais pas beaucoup. Puis, je me rends compte que je pense pas que c'est une maladie que les gens connaissent vraiment énormément non plus. On peut avoir en tête, par exemple, Michael J. Fox ou sinon, on a des idées reçues des gens qui ont des tremblements, etc. Mais c'est une maladie qui gagne à être connue parce que c'est la deuxième maladie en importance, la deuxième maladie neurodégénérative en importance au Canada. Ça touche énormément de monde, puis on pense que ça va toucher de plus en plus de gens d'ici 2030. Donc, j'ai commencé à m'impliquer avec Parkinson Québec, qui est un organisme, bon, comme le nom le dit, là, qui accueille autant des gens qui sont diagnostiqués que leurs proches, par exemple, donc avec des renseignements, avec de l'aide, etc. J'ai commencé à me renseigner, puis j'ai développé vraiment une bonne relation avec cette équipe-là, avec l'équipe de Parkinson Québec. Puis m'ont proposé d'animer un balado pour faire connaître la maladie. Donc, c'est 4 épisodes de 20 minutes. Je pense sincèrement que ça s'écoute assez bien.
Ouais.
Il y a des témoignages qui sont formidables là-dedans. Le but, c'est la mission de ce balado-là, c'est d'informer à la fois les gens qui sont touchés par la maladie, mais aussi les gens qui veulent juste en apprendre davantage. Donc, informer puis soutenir là, via le balado qui est disponible, comme tu disais, sur la plateforme audio.
On n'aura pas le temps d'aller plus loin que ça, mais je voudrais quand même souligner qu'on va aussi te voir, je sais plus quelle date déjà, pendant Fierté Montréal, Combat des tubes.
Le 8 août, combat des tubes contre Claudine Prévost et Catherine Pogonat. Ça va être juste avant la super soirée IMIX, là, où on va voir sur scène, entre autres, Marjo, Elisapi, Mitsou et d'autres. Donc, le 8 août au Parc Olympique, de 18 h à 20 h. Je connais pas plus de détails, mais je pense que ça va être vraiment le fun. Donc, un combat des tubes, la meilleure musique queer, je présume. Je prends
J'imagine.
toutes les suggestions, en tout cas, Denis Martin. Si jamais tu as ta chanson queer
Je
préférée,
vais
là, tu
t'écrire,
me diras
c'est
ça.
clair. Jenny Lépine-Blondeau, on va te souhaiter quand même quelques nuits de sommeil entrecoupées
Merci.
et au plaisir de te revoir très bientôt. Merci beaucoup et félicitations encore.
Merci pour l'invitation. Bye bye.
Merci.